Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir les 40 principes d'innovation de la méthode TRIZ. Tout d'abord, d'où viennent ces principes d'innovation? Les principes trouvent leur source dans la connaissance technique des brevets. Genrich Altschuler, le créateur de la méthode TRIZ, a mené une étude sur plus de 40 000 brevets dans différents domaines techniques. Ça lui a permis d'observer des analogies dans la résolution de problèmes. Il a conclu que des problèmes analogues sont résolus par les mêmes solutions. De ce constat, il a conceptualisé des principes d'innovation applicables, quel que soit le domaine. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que Genrich Altschuler soit parti des brevets pour cette analyse, car l'intérêt d'un brevet est justement de décrire le problème rencontré et la solution proposée. C'est une base de données techniques d'une richesse inégalée. Le résultat de ce travail procure de nombreux avantages. Car peu d'experts dans un domaine ont le temps de se familiariser avec d'autres domaines, même proches. C'est en quelque sorte une passerelle entre le monde des problèmes et le monde des solutions qui fait gagner un temps considérable aux innovateurs. Il y a un autre gros intérêt également, c'est-à-dire que vous tirez profit de l'expérience accumulée par des milliers d'inventeurs dans d'autres secteurs d'activité. Vous aurez entre les mains des leviers puissants pour faire évoluer l'existant avec des solutions innovantes et astucieuses. Voici la voie proposée par TRIZ. Généralement, lorsqu'on innove, on part d'un problème pour trouver une solution. Mais ce chemin direct n'est pas toujours facile, car on fait souvent une fixation sur ce qui existe déjà. TRIZ propose un chemin détourné avec des principes d'innovation qui relient des problèmes standards à des solutions standards. La voie à suivre en partant de votre problème de départ est d'utiliser ces principes d'innovation comme de véritables leviers pour trouver des solutions par analogie. Voyons maintenant ensemble l'utilisation de ces principes d'innovation. En réalité, il existe plusieurs manières d'utiliser les 40 principes d'innovation. Vous pouvez utiliser tous les principes de manière libre, car au final, chacun d'eux a un potentiel d'innovation important. Une autre manière de faire est d'utiliser la matrice de TRIZ, qui vous suggère une sélection pertinente de principes en lien avec votre problématique. Nous aborderons la matrice de TRIZ dans un prochain cours. Et enfin, vous pouvez utiliser les principes d'innovation 20-80, c'est-à-dire ceux qui apportent généralement le plus de résultats, en les personnalisant à votre problématique pour les rendre encore plus puissants. Donc ça, c'est la méthode TRIZ Express que nous détaillerons aussi dans un prochain cours. Vous voyez, vous avez plusieurs options possibles. Vous l'aurez compris, chaque principe est une aide précieuse pour les innovateurs. On peut dire que chaque principe est à lui seul un levier de transformation pour faire évoluer votre produit dans le bon sens. C'est un véritable outil de la conception innovante. Ce qui est important, c'est de comprendre le potentiel de chaque principe pour mieux l'utiliser. Prenons l'exemple du compas pointe sèche. Selon vous, quels en sont les usages possibles ? Alors, mettez la vidéo sur pause et réfléchissez un petit peu. Eh bien, en réalité, les usages sont multiples. Vous pouvez par exemple tracer un cercle, mesurer une distance en reportant l'écartement sur une règle graduée, reporter des mesures, tracer une parallèle à un guide, définir le centre d'un cercle d'un rayon donné qui passe par deux points, et j'imagine que vous en avez trouvé d'autres. Cet exemple nous montre qu'un outil nous apporte plus de choses dès lors qu'on en comprend le potentiel. C'est justement ce que nous allons faire en parcourant ensemble l'énoncé des 40 principes avec des illustrations. Ce qui est important pour moi, c'est de vous aider à voir au-delà du principe et en quoi il est utile. Pour ça, je vais vous présenter plusieurs choses. Tout d'abord, l'intitulé du principe et son numéro. Puis la question ouverte permettant d'utiliser le principe, ainsi que des sous-principes qui correspondent à des variantes possibles. Et enfin, je vous montrerai des exemples qui illustrent le principe en question. Allez, c'est parti, commençons par le premier principe, la segmentation. Donc la question à se poser est la suivante, Que se passe-t-il si vous segmentez votre produit? Trees propose aussi des sous-principes, d'autres variantes possibles, comme diviser le produit en parties indépendantes, rendre le produit démontable, et enfin segmenter le produit et le réorganiser dans l'espace et dans le temps. Alors vous voyez là l'exemple d'un panneau solaire pour randonnée qui est divisé en plusieurs parties. Eh bien ça permet d'être rangé plus facilement, ça permet également de s'adapter au support sur lequel il est posé, vous voyez, un sac à dos, une tente par exemple. Et enfin, le panneau est un module qui peut s'associer à d'autres. Le savon ici est segmenté en fines feuilles utilisables une par une. Il y a deux avantages pour le consommable. Tout d'abord, ça permet de calibrer une dose. Alors c'est intéressant quand les doses doivent être précises pour un procédé particulier. Et ça permet aussi d'utiliser une dose unique sans préjudice pour le reste du contenu. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue hygiénique. Vous voyez, le cutter est ici segmenté entre le corps et la lame. Eh bien, en quelque sorte, rendre démontable a le gros avantage de pouvoir interchanger uniquement la partie qui s'use. Et ce qui est intéressant également de constater, c'est que la lame, eh bien, est devenue une partie standard pour tous les fabricants. En quelque sorte, ça renforce le design dominant, car il est difficile d'imposer quelque chose hors standard. On peut dire que ça protège les fabricants établis. Le barbecue est ici segmenté en parties identiques. Alors ça a plusieurs avantages, optimiser l'encombrement après pliage évidemment, et vous voyez également que les pièces sont identiques, hein, ce sont des triangles, et bien c'est plus facile à fabriquer et ça nécessite moins d'investissement. Ici nous avons qu'un seul outil de découpe. Dans ce nouvel exemple, on voit ici une barque qui est segmentée en deux parties. Dans ce cas, la segmentation a pour intérêt la diminution des dimensions de stockage. Et puis, la division des parties revient aussi à diviser le risque en cas de fuite, par exemple. Vous voyez, nous avons deux modules qui sont autonomes les uns par rapport aux autres. Et en quelque sorte, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Alors là, vous voyez des pièces détachées qui peuvent être composées soit en draisienne ou en tabouret. Vous voyez, il y a trois intérêts derrière ça. Tout d'abord, ça coûte moins cher car le produit n'est pas assemblé. Et puis, ça prend peu de place au moment de l'achat, il se transporte facilement en voiture. Et enfin, ça permet une multiplication de l'usage, ce qui donne plus de valeur pour l'utilisateur. C'est typiquement ce qui a fait le succès d'IKEA. Dans cet exemple, vous voyez que le cadre de ce vélo est segmenté et articulé. La selle est utilisée comme un cadenas, et vous ne pouvez pas voler le vélo, ni voler la tige de selle. Il y a un double effet qui se coule, vous voyez, c'est plutôt malin. La segmentation permet un côté transformeur, vous voyez, en fonction des phases d'usage. Ce lustre se décompose en 5 lampes qui peuvent être utilisées indépendamment ou de manière synchronisée. Ça apporte une flexibilité d'usage qu'un produit monobloc n'aurait pas pu permettre. Cette fenêtre de toit est segmentée en plusieurs parties et permet de se transformer en balcon. Là aussi, la segmentation apporte une valeur d'usage évidente. La segmentation permet aussi, au niveau d'une gamme complète, de mutualiser une partie. En l'occurrence ici la batterie, il y a donc plusieurs avantages à cela. Évidemment, ça permet d'assurer la continuité de l'usage avec le remplacement possible d'une batterie. Ça permet aussi de baisser les coûts sur l'ensemble d'une gamme, car un module est mutualisé. Et ça fidélise le client qui est encouragé à enrichir une même gamme. Voyons maintenant un nouveau principe, le principe d'extraction. La question à se poser est la suivante, quelle partie de votre produit pouvez-vous enlever ou sacrifier? Et les sous-principes vous suggèrent plusieurs choses, soit d'enlever une partie du produit, ou alors extraire du produit une propriété perturbatrice ou utile. C'est sans aucun doute le principe le plus déroutant. C'est justement pour ça qu'il est intéressant, car on s'habitue aux objets tels qu'ils sont et au final, on n'ose plus les imaginer différemment. Et un design dominant s'impose sans même qu'on s'en rende compte. Dans l'exemple du tire-bouchon, vous voyez, les deux bras ont été supprimés. On simplifie le produit et ça c'est génial. On extrait, si vous voulez, le bouchon par une simple rotation de la vis. Alors évidemment, derrière cette simplicité, hein, il y a tout de même un travail énorme de mise au point qui est remarquable, hein, pour que ça fonctionne. Notamment un phénomène de guidage, hein, pour que le bouchon puisse translater facilement. Dans ce nouvel exemple, là aussi, c'est assez déroutant. Imaginez un vélo sans plateau et sans chaîne. Il fallait oser. Vous rendez compte aussi à travers cet exemple l'attraction de l'existant dans notre imaginaire, c'est vraiment très puissant. Alors évidemment, une fois qu'on voit le produit, on se dit que c'est sympa, mais pour arriver jusque-là, vous devez imaginer les résistances qu'a dû vivre l'équipe projet pour imposer ce concept. Alors voilà un produit que vous connaissez tous. Dans ce cas-là, la suppression du sac de poussière a créé un séisme dans le monde de l'aspirateur. James Dyson, l'inventeur, cherchait volontairement à supprimer le sac pour diminuer la perte d'aspiration. En revanche, la fonction d'extraction de la poussière opérée par le sac, eh bien, vous voyez, doit être assurée par le reste du système. Vous comprenez ainsi que quand on supprime quelque chose, eh bien, vous supprimez aussi des fonctions utiles qu'il faut faire supporter par d'autres parties du produit ou de nouveaux éléments. Vous devez voir le sacrifice d'une partie du produit comme un coup de pied dans la fourmilière. Ensuite, évidemment, il y a un travail pour réinventer le produit si on veut garder évidemment toutes les fonctions. Vous voyez ici un système de lancer sans la canne. Alors évidemment, ça change complètement la manière de pêcher. C'est un nouvel usage, c'est vraiment autre chose. Mais bon, vous voyez que l'utilisation de ce principe peut ouvrir comme ça la voie à de nouveaux produits. Ici, il s'agit d'un cardiofréquencemètre sans ceinture. Le capteur infrarouge, cette fois-ci, est placé derrière le boîtier. Le fabricant a dû réaffecter le capteur sur une autre partie du produit. Alors, c'est un peu moins efficace, mais en réalité, beaucoup, beaucoup plus pratique. Lorsqu'on résout un gros problème pour l'utilisateur, il est prêt quelquefois à accepter une baisse de performance sur d'autres fonctions. Vous voyez ici le concept d'échelle sans barreaux. Ça crée un nouvel usage pour se déplacer sur les toits. On voit que l'utilisateur se sert du toit comme support, mais également pour poser les pieds. Typiquement, le toit est une ressource extérieure utile pour l'usage du produit. Vous voyez que ce qui est traité par des ressources extérieures gratuites, eh bien, n'a plus besoin de l'être par le produit. On voit ici des adaptateurs qui permettent de skier sans ski. Alors là aussi, on est sur un nouvel usage. Ce qui est à noter sur ce produit, c'est qu'une partie des fonctions qui étaient traitées par le ski ou la planche de snowboard sont difficilement transférables sur d'autres parties. Du coup, il y a de grosses pertes de performance sur des critères tels que la stabilité par exemple. Dans cet exemple, les vitamines C sont extraites en complément alimentaire pour retrouver la forme. On voit dans cet exemple que le principe peut s'appliquer à autre chose qu'une partie. On parle ici d'une propriété. Alors voyons maintenant le principe de qualité locale. La question à se poser est la suivante. Quelle partie de votre produit voulez-vous changer localement? Et les sous-principes suggérés sont les suivants. Changer localement une caractéristique du produit, ou spécialiser les différentes parties du produit, ou alors rendre la structure du produit non homogène. Alors, vous voyez sur cet exemple que le fond de l'assiette est localement modifié pour un meilleur contrôle de la découpe des aliments avec une seule main. Alors c'est utile évidemment quand on est porteur d'un handicap, c'est vraiment bien utile pour ça, et on voit que ça peut être traité vraiment tout simplement, et pourtant les bénéfices sont énormes pour l'utilisateur. Dans cet exemple, le bout du tournevis est magnétique pour maintenir la vis accrochée. On se rend bien compte qu'il serait inutile démonter toute la partie métallique du tournevis. L'intérêt de ce principe est d'apporter le juste nécessaire pour que ça soit utile et à moindre coût. Ici, vous voyez, les gants sont tricotés avec des extrémités spéciales permettant de manipuler un écran tactile de smartphone. Cette spécialisation peut être justifiée parce que les caractéristiques du fil tactile sont moins pertinentes ailleurs. Par exemple, elles sont moins élastiques. Ou alors tout simplement pour des raisons économiques si le fil est plus coûteux. Dans le cas de ce tube, une âme en spirale lui donne une structure et permet sa flexion. Vous voyez, une structure hétérogène permet de faire cohabiter des éléments avec des caractéristiques différentes, dans ce cas-là, dures et souples. Voyons maintenant le principe d'asymétrie. La question à se poser est la suivante. Que se passe-t-il si vous cassez la symétrie de votre produit? Et les sous-principes suggérés sont les suivants. Rendre asymétrique la forme du produit, modifier dans le temps une caractéristique du produit, ou alors rendre asymétrique la répartition en nombre des parties du produit. On voit ici une paire de ciseaux asymétriques. La symétrie au service d'une meilleure ergonomie pour une main droite donc est intéressant. On dispose ainsi d'un gain en efficacité certain, mais évidemment moins universel. Alors vous voyez ici un casque qui dispose d'une longueur de fil différente hein, entre l'écouteur droit et l'écouteur gauche. Donc c'est un casque pour un baladeur MP3, et quand vous le positionnez bien dans une poche latérale d'une chemise par exemple, donc c'est très utile pour que la longueur finalement des boucles du fil eh bien, respecte bien finalement le besoin de l'utilisateur. Donc là encore, hein, on optimise le produit pour le rendre plus efficace. Ici, vous voyez la forme de la toile de ce parapluie est asymétrique pour mieux se protéger ou pour abriter deux personnes plus facilement. Ce qui est intéressant sur ce produit, c'est que l'asymétrie du parapluie corrige le défaut d'alignement du parapluie par rapport au corps, et le fait de porter un parapluie standard de la main droite, vous voyez, déporte naturellement le parapluie à la droite du corps, et bien en quelque sorte, ce concept tend à corriger ce problème. Ici, vous voyez, le sac à dos dispose d'une seule bretelle déclipable pour faire pivoter le sac devant l'utilisateur. Alors évidemment, c'est bien utile lorsqu'on monte sur un télésiège, par exemple. On voit ici que les bretelles ont des rôles finalement différents. Alors le fait d'accepter de traiter deux parties identiques de manière différente, vous voyez, ouvre des perspectives que vous n'auriez pas imaginées. Dans cet exemple, vous voyez un scooter qui est constitué de trois roues. Alors deux roues devant et une derrière pour une meilleure stabilité. Ici, ce qui est important, c'est la répartition des parties du produit. Alors, évidemment, le constructeur aurait pu imaginer deux roues derrière et une devant. Enfin, je pense que, d'ailleurs, tout a été envisagé sur ce type de produit. Voyons maintenant un nouveau principe, le groupement. La question à se poser est la suivante. Est-il possible de grouper des objets destinés à des opérations parallèles ou contiguës? Et les sous-principes vous suggèrent plusieurs choses. Tout d'abord, grouper ou fusionner plusieurs parties similaires du produit, ou alors combiner des actions pour les rapprocher dans le temps, et enfin grouper ou fusionner une partie du produit avec un objet proche. Vous voyez ici une chaise de cuisine design qui est injectée en une seule partie. Donc on a vu précédemment le principe de segmentation. Là c'est un peu l'inverse en quelque sorte, on cherche à grouper ou fusionner. On voit bien dans cette succession de principes que la méthode cherche à vous faire voyager dans tous les champs du possible. Ici, la roue est constituée d'une seule partie, qui finalement regroupe le pneu et la jante, avec comme bénéfice d'intégrer le comportement élastique de la chambre à air sans les inconvénients de la crevaison. On voit ici que le groupement, lorsqu'il s'agit d'une fusion, a tendance à simplifier le produit et sa mise en œuvre. Mais on peut aussi en complexifier la fabrication et demander finalement des investissements beaucoup plus lourds. En tout cas, vous voyez, il est important de mesurer les impacts de ce type de résultat. Donc ce qui peut être simplifié d'un côté peut être complexifié de l'autre. Donc soyez bien vigilants par rapport à ça. Ici, vous voyez, le décapeur thermique dispose d'une spatule intégrée pour décoller la peinture en un geste. Dans ce cas, on groupe deux actions qui au préalable étaient séquencées. On avait d'une part le décapage et après le raclage. Donc là, le point de questionnement est d'estimer s'il est réellement possible de grouper ces deux étapes ou s'il est nécessaire de maintenir un temps entre les deux. En tout cas, si vous pouvez faire les deux en même temps, pourquoi s'en priver? Cet ustensile de cuisine est un groupement du couteau et de la pelle. Vous voyez, la préhension de la part de cake se fait par pincement. Alors vous noterez qu'ici, ce groupement simplifie la découpe et la préhension. En revanche, qu'en est-il lorsque vous déposez la part de gâteau dans l'assiette? Vous voyez, grouper, oui, mais toujours bien mesurer les impacts collatéraux. Alors vous voyez aussi dans cet exemple qu'on ne cherche pas à cumuler des objets, mais bien à cumuler des fonctions. Donc ça, c'est essentiel pour l'application de ce principe. Ici, vous voyez le shampoing 2-en-1, eh bien, nettoie et nourrit les cheveux en même temps. Ici, on groupe deux composants ayant deux comportements différents dans le même produit. C'est au final assez simple lorsque les deux produits sont compatibles. Au final, ce qui était réalisé en deux étapes, c'est-à-dire le lavage et le soin, eh bien, se fait en une seule fois, c'est beaucoup plus simple. Ici, l'éponge pour vaisselle 2-en-1, mais finalement est constitué d'une face pour gratter et une autre pour nettoyer. Alors vraiment, j'adore ce produit qui est en réalité très simple et en même temps très abouti. Ce que je note sur ce produit est le fait d'avoir choisi de grouper deux objets proches très similaires. Et ça fonctionne très bien. Plus les objets sont similaires, plus il est facile techniquement de les regrouper. Ici, la tente est groupée à un hamac. Alors elle protège ainsi l'usager du sol pour plus de confort et de sécurité. Ce qui est intéressant de relever est l'association de deux objets d'un même univers, c'est-à-dire le hamac, la tente et la moustiquaire. On voit ici qu'on baigne dans l'univers du camping et de la randonnée. Eh bien, de nombreux produits naissent comme ça, tout simplement. Dans cet exemple, le barrage se gonfle tout seul grâce à la force du courant. Ici, on groupe momentanément le produit avec une ressource extérieure gratuite. On veut arrêter l'eau et c'est l'eau elle-même qui nous aide, donc ça c'est fantastique. On peut dire que plus le barrage retient d'eau, plus la masse de l'eau maintient le barrage. C'est vraiment un cercle vertueux. Et au final, le produit est vraiment très simple. Voyons maintenant le principe de multifonction. La question à se poser est la suivante. Est-il possible de rendre votre produit multifonctionnel? Et les sous-principes proposés sont les suivants. Rendre apte une partie de l'objet à réaliser plusieurs fonctions pour remplacer les fonctions d'une autre partie de l'objet. Ou alors ajouter au produit une fonction issue d'un objet proche. Alors évidemment, l'objet qui illustre mieux ce principe est le couteau suisse, qui est multi-usage par excellence et bien utile dans de nombreuses situations. Alors l'air de rien, il est vraiment bien pensé à plusieurs titres. Chaque outil est disposé en extrémité ou au centre du manche, en fonction de critères ergonomiques, évidemment. Et puis après, chaque petit outil peut lui aussi grouper plusieurs outils. Cette pelle de survie multifonction rassemble 18 outils différents, intégrés sur sa surface plate ou dans son manche. Là, c'est un peu le couteau suisse adapté à une pelle de survie, avec une petite différence tout de même. Les outils sont rassemblés, mais de manière statique, vous voyez, sur une surface plate, c'est surtout de la découpe. Et au niveau des coûts de production, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Ici, vous voyez une boucle de sac à dos avec un sifflet intégré pour signaler la présence de l'usager en cas d'urgence. On voit ici qu'un petit plus sur un petit composant peut tout simplement sauver des vies, donc ça c'est formidable. C'est typiquement le type d'astuce qui rend votre produit attractif. Attractif dans le sens où la valeur pour l'utilisateur est forte, on parle ici vraiment de survie, et le prix pour le client est bas, donc ça coûte pas grand-chose à produire. Et d'ailleurs, plus l'écart entre la valeur et le prix est important, plus votre produit sera attractif. Et évidemment, comment parler de multifonction sans aborder le smartphone avec de multiples applications? D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un smartphone soit autant multifonctionnel? Eh bien, c'est le groupement de capteurs tels que l'appareil photo, le micro, l'écran tactile, le GPS, l'accéléromètre, le big data, c'est-à-dire le cloud, l'algorithme, les applications, et le moyen de restitution de l'information, c'est-à-dire l'écran couleur, le haut-parleur, les vibrations. Tout ça réuni, et grâce à l'imagination débordante de l'être humain, eh bien le résultat est presque sans limite. Alors autant le couteau suisse est limité par sa taille physique, autant les usages d'un smartphone sont infinis du fait de la dématérialisation. Voyons maintenant un nouveau principe, l'inclusion. La question à vous poser est la suivante. Que se passe-t-il si vous placez un objet dans un autre? Et les sous-principes suggérés sont les suivants. Placer une partie dans une zone creuse du produit, ou alors placer un objet proche dans une partie creuse du produit, et enfin, placer une partie du produit à l'intérieur d'une autre. Vous voyez, ce sont des petites nuances comme ça, mais qui peuvent finalement, par analogie, vous donner d'autres idées de mise en œuvre. Ici, le tournevis est universel et dispose d'un pack complet d'embouts intégrés dans le manche. Le principe d'inclusion est assez malin lorsqu'il s'agit de remplir une zone creuse, et c'est au final très pratique pour l'utilisateur qui, dans le cas du tournevis, ne perdra plus ses embouts, il aura vraiment tout sous la main. Dans cet exemple, vous voyez un rouleau qui dispose d'une recharge de peinture inclus dans le manche et d'une poignée de commandes pour gérer l'approvisionnement plus facilement jusqu'au rouleau. Alors, vous noterez en passant que ce qu'on appelle une partie peut très bien être un consommable comme la peinture. Ici, l'inclusion va au-delà de mettre une partie dans une autre. Le fait d'inclure la peinture dans l'objet, c'est-à-dire le rouleau, permet de les faire interagir plus facilement. L'objet peut du coup commander l'arrivée de la peinture et visualiser le niveau restant. Alors ici, le lave-linge dispose d'un petit hublot qui est intégré dans l'ouverture principale. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'une ouverture a été intégrée dans une ouverture. Ici, l'intérêt est de pouvoir ouvrir le petit hublot, même lorsque la cuve est déjà pleine. Donc c'est évidemment bien utile si vous avez oublié de mettre une paire de chaussettes après avoir lancé le cycle de lavage. En réalité, vous voyez, ça semble être une astuce, mais c'est vraiment d'une grande utilité pour l'usager. Ici, vous voyez, le sac de jeu inclut un tapis qui permet un usage plus facile des jouets. Évidemment, le rangement est ensuite beaucoup plus facile. Donc on utilise le produit beaucoup plus simplement et on contrôle mieux ce que l'on fait en quelque sorte. Ici, vous voyez un bidon de vélo qui dispose d'une recharge de produits énergétiques et d'un réglage de la richesse. Donc là aussi, l'inclusion de la dose de sirop dans la bouteille apporte un vrai plus, notamment celui de pouvoir doser la quantité de glucose en fonction de votre besoin. Et l'air de rien, eh bien ça permet à la marque aussi de vendre un produit consommable en plus de la bouteille. Et une fois que le client a acheté la bouteille, eh bien il devient captif pour la marque. Alors ici, vous voyez un petit rétroviseur qui se fixe à l'extrémité intérieure du guidon. Alors ce petit rétroviseur de vélo nous montre que l'on peut exploiter vraiment toutes les parties creuses d'un objet et y intégrer des objets proches et plus précisément issus d'un domaine proche. Par exemple, on ne met pas de rétroviseur sur un vélo de course. Mais pourquoi finalement ? Il y a peut-être à cause du look, de la résistance à l'air, sans doute un peu des deux d'ailleurs, mais au final on en a besoin. Qui imaginerait une moto sans rétroviseur ? Évidemment personne, le besoin de sécurité est identique. Il est donc intéressant, vous voyez, lorsqu'on parle d'objets proches, d'élargir sa réflexion au domaine proche également. Tout simplement parce que ça crée des opportunités qui peuvent être vraiment pertinentes. Voyons maintenant le principe de contrepoids. La question à se poser est la suivante. Existe-t-il un contrepoids pour compenser le poids ? Et les sous-principes suggérés sont les suivants également. Compenser la masse d'un objet par combinaison avec un ou d'autres objets possédant une force ascensionnelle, vous voyez ? Ou alors grâce à des interactions avec l'environnement comme la force aérodynamique, hydrodynamique ou alors la flottabilité. Dans cet exemple, le volet roulant à tirage direct est muni d'un ressort de compensation qui est intégré dans l'axe d'enroulement, et bien qui lui permet d'être monté ou descendu sans effort. Vous voyez sur cette barrière, c'est une barrière automatique, et bien qui fonctionne avec un levier qui est actionné astucieusement par le passage du véhicule. Donc dès que le véhicule avance, et bien la barrière, par un jeu de bras de levier, s'ouvre tout simplement. Et dès que le véhicule s'en va, eh bien la barrière, avec un temps de retard, s'abaisse à nouveau. Vous voyez ici un bracelet de sécurité, qui est un bracelet boué, qui permet de remonter le poids du corps à la surface de l'eau. Donc en cas de problème, vous déclenchez facilement votre bracelet pour vous aider à remonter à la surface. Vous voyez ici un système gonflable à l'hélium, qui compense la masse d'une turbine de 30 kW. Donc vous voyez, on peut aussi compenser comme ça des objets pouvant être assez importants. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que le positionnement en altitude de la turbine n'est plus du tout lié à la structure qui supporte finalement l'objet. Il suffit juste de laisser s'échapper un peu plus haut le ballon, tout simplement. Voyons maintenant un nouveau principe qui est l'action contraire préalable. La question à se poser est la suivante. Comment anticiper une action contraire qui sera utile plus tard ? Les sous-principes proposés sont les suivants. Si une action engendre des effets utiles et nuisibles, eh bien procédez à une action préventive pour contrôler les effets néfastes. Et si le produit supporte en fonctionnement des tensions indésirables mais connues, eh bien cherchez à le soumettre à une tension préalable contraire. Alors vous voyez ici l'exemple du vaccin, qui finalement stimule les défenses naturelles de l'organisme pour créer une réaction immunitaire. Sur cette photo, vous voyez le tablier d'un pont où passent les voitures, qui est pré-contraint par des câbles en acier mis sous tension. Et ça lui confère finalement une résistance qui est vraiment nettement supérieure. Voyons maintenant un nouveau principe qui est l'action préliminaire. Alors, la question à se poser est la suivante. Qu'est-ce qui peut être fait en avance? Plusieurs sous-principes sont suggérés, comme réaliser en avance sur le produit un changement requis plus tard, ou alors prépositionner les parties du produit pour qu'elles entrent en action efficacement et sans perdre de temps. Alors ici, vous voyez un exemple classique qui est le papier toilette qui est prédécoupé pour un usage plus facile. Donc on le prédécoupe avant pour que ça soit plus facile à découper après. Vous voyez ici une pizza prédécoupée en plusieurs parts et prête à manger. Vous voyez aussi qu'un petit plus fait au préalable, qui ne coûte pas grand-chose à la production, eh bien peut apporter un gros plus pour l'utilisateur. Là, vous voyez des lingettes pré-imprégnées d'un produit nettoyant pour un usage plus rapide. Cette action préliminaire est un gain de temps et en plus, vous n'avez pas à vous poser la question de la dose de produit à mettre dessus. C'est déjà pré-dosé pour l'utilisateur. Alors évidemment, la problématique dans ce cas peut être la date de péremption. Alors c'est une limite lorsqu'on intègre au préalable une substance sur un produit. Il faut être vigilant par rapport à ça. Dans cet exemple, les frites, vous voyez, sont préalablement enrobées de graisse pour une cuisson au four et sans odeur. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est l'impact qu'a une action préliminaire sur la suite du procédé. Ici, pour l'utilisateur, il n'y a plus de cuisson dans de l'huile bouillante avec tous les désagréments dus à la graisse et aux odeurs. L'usage en est impacté. Dans cet exemple, vous voyez une poubelle qui dispose d'un compacteur qui est intégré. Alors ça permet d'anticiper cette action qui généralement se fait dans le camion des éboueurs. Eh bien, l'air de rien, ça fait économiser des sacs et des trajets à l'usager. Ce pot de fleurs, vous voyez, est en plusieurs parties pour finalement faciliter le dépotage et ne pas en mettre partout quand on est en train de le faire. Ici, c'est l'anticipation d'une étape délicate qui a été prise en compte. Alors clairement, ça apporte une valeur ajoutée au produit et résout une action qui enquiquine généralement l'utilisateur. Alors vous voyez ici dans ce concept des pavés qui sont prépositionnés et qui se jointent facilement grâce à leur propre poids sur un plan incliné. Alors les avantages sont nombreux, notamment la position du travail qui est beaucoup plus ergonomique. Et puis vous imaginez également que l'auto-jointage des pavés se fait tout seul, c'est quand même une opération qui est délicate normalement quand on est agenouillé à terre. Et en quelque sorte, on peut aussi conclure que la productivité est beaucoup plus élevée. Avec ce concept, les parements de briques sont prépositionnés sur une plaque avant d'être enduits de colle et plaqués sur le mur. Ce processus facilite l'air de rien le contrôle de l'écartement entre chaque brique pour un résultat qui finalement est garanti à coup sûr. C'est aussi un gain de temps pour l'artisan. Donc vous voyez, le fait d'anticiper comme ça une action apporte de nombreux avantages sur la chaîne globale des opérations. Voyons maintenant un nouveau principe, la protection préalable. La question à se poser est la suivante, qu'est-ce qui peut être anticipé en cas d'urgence? Et le sous-principe suggéré est de chercher à compenser le manque de fiabilité relative d'un objet par des mesures préventives. Alors vous voyez ici un exemple de film de protection pour un écran de smartphone qui protège finalement des rayures et des impacts. Un autre produit qui illustre également ce principe, c'est le patch qui crée une seconde peau sur une zone sensible de la peau pour éviter le risque d'ampoule. Là, nous voyons un sac à dos qui est muni d'un airbag et qui permet d'éviter justement d'être enseveli en cas d'avalanche. Vous voyez, donc on a anticipé comme ça une mesure de prévention qui peut être utile en cas de problème. Voyons maintenant le principe équipotentiel. La question à se poser est la suivante. Quelle condition opérationnelle peut être changée pour atteindre le niveau souhaité? Les sous-principes proposés sont les suivants. Dans un champ potentiel, cherchez à limiter les possibilités de changer de position. Ou alors, changez les conditions de travail pour éviter de devoir lever ou baisser un objet dans le champ gravitationnel. Dans cet exemple, vous voyez que l'accès aux portes des TGV à deux étages, a été abaissé au niveau du quai pour faciliter l'embarquement. Vous voyez sur ce nouvel exemple une idée qui est vraiment astucieuse, qui est de faire rouler une citerne d'eau pour éviter de la porter. Alors évidemment, quand on fait 10 ou 20 km entre chez soi et la source d'eau potable, c'est vraiment une solution qui finalement change la vie. et qui finalement n'est pas très compliqué à réaliser, à produire. Donc on est vraiment dans de l'innovation frugale où avec peu de moyens, on peut générer une valeur énorme pour l'usager. Vous voyez sur cet exemple un potager qui est positionné en hauteur pour pouvoir jardiner tranquillement sans se baisser. Dans cet autre exemple, vous voyez un adaptateur pour visseuse qui permet finalement de travailler sans se baisser. Alors c'est utile quand on cherche à visser, vous voyez, des planches sur le sol. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de travailler comme ça que d'être agenouillé par terre. Donc on apporte une plus-value énorme en termes d'ergonomie. Voyons maintenant ensemble le principe d'inversion. La question à se poser est la suivante, qu'est-ce que l'on peut faire à l'envers? Et les sous-principes suggérés sont de chercher à inverser l'action utilisée normalement pour résoudre le problème, ou alors rendre fixes les parties mobiles et rendre mobiles les parties fixes, et enfin retourner le produit ou inverser le processus. Donc là vous voyez sur cet exemple un système de filmage de palette qui tourne automatiquement autour de la palette qui elle reste fixe. Alors c'est plutôt malin quand le produit sur la palette est plutôt très lourd ou fragile, là comme ça on le laisse statique et c'est donc le système de filmage qui lui tourne. Alors là on voit un exemple classique mais qui illustre bien ce principe d'innovation, qui est le tapis de course qui vous permet de courir sur place en faisant défiler un tapis roulant sous vos pieds. Alors ici vous voyez un nouvel exemple, une boule de massage qui se fixe sur un support vertical et c'est l'utilisateur qui se déplace. Alors c'est du coup très pratique pour masser des surfaces du dos qui sont inaccessibles normalement. Là vous voyez un nouvel exemple, ce sont des palmes de plongée qui permettent de marcher normalement lorsqu'on bascule la voilure de la palme en arrière. Alors c'est évidemment très pratique pour rentrer dans l'eau depuis la plage. Et donc vous observez également que en faisant peu de choses, c'est-à-dire juste en inversant comme ça une partie du produit, eh bien on peut apporter un gros plus pour l'usage du produit. Alors ici vous voyez un concept qui remplit le verre de bière par la base, évitant ainsi l'excès de mousse. Et puis ça permet de rendre beaucoup plus compact le distributeur, et ça simplifie aussi la manière de se servir la bière, qui normalement demande une certaine dextérité pour éviter qu'il y ait de la mousse à l'intérieur. Alors là vous voyez une douche de jardin avec une inversion du sens du jet, et bien là aussi le système devient beaucoup plus compact, discret, et donc au final facile à manipuler. Alors voyons à présent un nouveau principe, qui est le principe de courbe. La question à se poser est la suivante, qu'est-ce qui se passe si vous incurvez les objets? Les sous-principes sont les suivants, remplacer des droites par des courbes, des plans par des hémisphères et des cubes par des sphères. Ou alors utiliser des disques, des rouleaux, des sphères, des spirales, des voûtes, vous voyez. Ou alors remplacer les translations par des rotations ou utiliser des forces centrifuges. Alors vous voyez dans cet exemple un couteau qui est muni d'une lame circulaire rotative, ce qui rend son usage vraiment très pratique. Dans cet autre exemple, vous voyez une télévision avec un écran incurvé qui permet une meilleure vision panoramique. Vous êtes en capacité de vous immerger encore un peu plus dans l'univers du film ou du jeu vidéo que vous êtes en train de regarder. Dans cet exemple, vous voyez une raclette de pare-brise qui est une forme conique. Or là, l'air de rien, c'est quand même vraiment très pratique, car elle devient multidirectionnelle et par ce fait beaucoup plus efficace. Alors là, vous voyez un mur d'escalade qui finalement n'est plus plan, mais cylindrique, et puis le fait qu'il soit cylindrique lui permet aussi d'être motorisé, et donc l'utilisateur, comme ça, escalade en continu, sans s'arrêter. Alors toujours dans le monde de l'escalade, au lieu d'être un cylindre, vous voyez ici c'est un disque qui finalement tourne avec le poids des gens, donc la séance de sport devient beaucoup plus ludique. Alors un produit mythique qui illustre ce principe est le stylo Bic, qui est un stylo muni d'une bille qui roule pour déposer l'encre sur le papier et qui a été vraiment une révolution à son époque. Là vous voyez un concept de genouillère de protection qui intègre des roulettes et du coup ça facilite énormément le déplacement pour l'utilisateur. Donc là on voit aussi une autre application qui est la brosse à dents qui est munie d'une tête rotative motorisée. Donc on a ici remplacé la translation au moment du brossage par le déplacement d'un objet tournant. Voyons maintenant un nouveau principe qui est le principe de dynamisme. La question à se poser est la suivante: quelle partie de votre produit peut se déplacer par rapport aux autres pour renforcer son dynamisme? Alors il y a également plusieurs sous-principes, comme prévoir l'ajustement d'une caractéristique du produit pour rendre son action optimale, ou alors déplacer une partie par rapport aux autres, ou rendre flexible ou adaptable les parties rigides du produit. Alors vous voyez ici une clôture électrique qui est ajustable grâce à un enrouleur de 4 fils qui passe à travers les piquets, vous voyez. Alors ici la longueur de la clôture eh bien, s'auto-ajuste en fonction du besoin, donc c'est très pratique. Du coup la mise en œuvre est beaucoup plus rapide, et lorsqu'on retire la clôture également. En revanche, cela apporte de la complexité au système, avec l'ajout de bobines et de ressorts de rappel. On imagine du coup eh bien, que la maintenance eh bien, soit un peu plus complexe. Donc on voit dans ce nouvel exemple un système de convoyeur qui s'adapte en 3 dimensions au trajet que doit suivre un colis. Un des gros avantages du dynamisme est justement d'apporter cette flexibilité. Et bien comme ça, votre produit s'adapte ainsi à de nombreuses situations. Ici, ce concept permet un réglage de la base de l'échelle pour s'adapter à la configuration du sol. Là encore, on voit le bénéfice de cette adaptation, et en même temps, ce déplacement relatif du pied présente un risque pour le concepteur qu'il va devoir gérer. Vous voyez que lorsqu'on ajoute quoi que ce soit à un système, on ajoute aussi de nouveaux problèmes, donc il faut rester vigilant par rapport à ça. Vous voyez ici un système de filet de ping-pong qui est enroulable et qui s'adapte sur n'importe quel support. On pourrait aisément dire que nous cumulons ici 2 principes, celui d'avoir sacrifié la table et celui aussi d'apporter du dynamisme sur la longueur du filet. Alors il n'y a aucun problème par rapport à ça. En tout cas, ça illustre aussi que des idées peuvent être trouvées grâce au principe de Trees et peuvent être additionnées pour en faire un concept plus global. Vous voyez ici des lunettes de piscine qui disposent d'un système de réglage de l'écartement des verres suivant 2 axes. Alors les dimensions d'un visage varient en 3 dimensions, c'est la raison pour laquelle la marque a prévu l'ajustement de l'écartement des verres suivant des plans inclinés. Dans cet exemple, vous voyez que la structure en nid d'abeille du cadre de cette ruche est divisée en plusieurs parties mobiles pour permettre l'écoulement du miel. Donc vous voyez, on peut faire coulisser comme ça les parois les unes par rapport aux autres pour soit constituer des alvéoles, de telle sorte que les abeilles puissent faire du miel, ou alors donc les faire coulisser à nouveau pour libérer le miel, et donc par gravité, ils coulent tout simplement. Alors vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose qui est très ingénieux, car ça évite de devoir retirer le cadre pour extraire le miel. Un autre exemple qui illustre ce principe de dynamisme, c'est un concept qui propose de convertir en un instant votre vélo en vélo cargo, en déployant tout simplement le triangle arrière qui est articulé. On se rapproche ici du principe de segmentation, au profit du dynamisme du produit. Ça illustre aussi que les principes peuvent aussi se chevaucher quelque part. Vous voyez, quand on laboure le champ du possible dans tous les sens, eh bien inévitablement il y a des recoupements. Là vous voyez un casque de vélo qui est articulé pour être replié sur lui-même lors du rangement, occupant ainsi 3 fois moins de place, donc c'est évidemment très pratique quand on doit se déplacer comme ça avec cet accessoire. Ici, vous voyez un barbecue qui dispose d'une base souple en fibre d'acier, le rendant pliable et utilisable n'importe où. Alors ce produit est intéressant car il cumule des parties rigides et articulées et une partie souple. Vous voyez que ces 2 solutions techniques, eh bien, répondent à un même besoin de dynamisme. Là, vous voyez une pince qui est ajustable et qui est munie de mâchoires mobiles et actionnables par la poignée. Alors ici, le dynamisme des mâchoires permet de remplacer eh bien, une large gamme de clés plates ou à œillets. Là aussi, on voit bien que la limite de la complexité apportée sur le produit en termes de fiabilité, alors c'est évidemment un élément à prendre en compte. Voyons maintenant un nouveau principe, qui est le principe excessif et partiel. La question à se poser est la suivante: que se passe-t-il si l'objet est légèrement moins ou légèrement plus? Alors les sous-principes suggérés sont les suivants: s'il est difficile d'obtenir le résultat à 100% d'une manière donnée, eh bien cherchez à réaliser partiellement l'action pour simplifier le problème, ou alors réaliser l'action par excès et enlever le surplus. Alors, sur le fameux post-it qui doit être collé et décollé facilement, eh bien vous voyez ici, la zone de collage est partielle, hein, que sur une partie du produit, et finalement peu collante. Alors ici, sur ce concept, vous voyez, ça permet de cimenter les briques copieusement, puis de racler l'excès pour ne garder que le juste nécessaire. Comme ça, la zone de dépose de colle est vraiment régulière et il y a vraiment juste ce qu'il faut. Dans la même idée, on retrouve un concept qui permet de tartiner des tranches de pain en utilisant la totalité de la motte de beurre, mais en ne déposant que le juste nécessaire. On est dans la même idée. Toujours dans la même logique, vous voyez ici un système D qui permet de déposer la bonne quantité de goudron pour boucher une fissure sur la route. Voyons maintenant le principe d'autres dimensions. La question à se poser est la suivante, que se passe-t-il dans une autre dimension ? Alors on retrouve également des sous-principes, comme déplacer une partie du produit dans une autre dimension, ou alors utiliser un assemblage multicouche, et enfin passer d'une dimension physique à une dimension dématérialisée. On voit dans cet exemple de l'écran LCD de cet appareil photo, eh bien qu'il est articulé pour visionner la prise de vue dans n'importe quelle position. Alors c'est sûr qu'avec notre smartphone et la multiplication des caméras, cette solution semble moins étonnante, on va dire, mais ça a été à l'époque une réelle innovation. Vous voyez ici une multiprise qui est présentée sous la forme d'une matrice, hein, plutôt qu'une série de prises alignées. Eh bien le fait d'ajouter une dimension à la prise apporte de nombreuses combinaisons de placements. Vous voyez ici un punching bag qui est accroché suivant un plan, plutôt qu'un point de suspension unique, eh bien le résultat est finalement plus compact et s'installe facilement dans l'encadrure d'une porte. Alors ici on voit un panier pour chat qui s'accroche sur une paroi verticale, permettant ainsi de gagner de la place au sol, donc c'est très pratique en voiture. Quand on a besoin de place, eh bien on peut exploiter comme ça de nouvelles dimensions. Alors là on voit un concept de rangement qui est composé d'un point d'accroche de la roue avant du vélo et d'un rail de guidage pour un positionnement vertical. Donc là aussi, on est sur une solution de gain de place. Là, on voit une chaise qui est constituée d'un système de coussins multicouches. Alors, du coup, eh bien, son usage est beaucoup plus adaptable en fonction du besoin de confort, et pour également changer de couleur, tout simplement. Là, vous voyez un tapis de sol pour voiture qui est constitué de manière très astucieuse de deux couches séparables, l'une en textile mèche et l'autre en mousse EVA. Eh bien, le nettoyage s'en trouve facilité, il suffit juste de séparer les deux couches et le tour est joué, la poussière s'en va et le tapis est nettoyé. Alors là, vous voyez un exemple de tuyau de chauffage multicouche qui a été conçu pour améliorer la performance et faciliter la mise en œuvre. On voit ici que le tuyau a été pensé pour que chaque couche apporte une fonction différente. Lorsqu'on ne peut pas répondre à un besoin avec un seul composant, on peut donc tenter d'y répondre avec plusieurs. Ça revient à décomposer le problème lorsqu'il est trop compliqué à résoudre. Alors ici, vous voyez le feu arrière de ce vélo qui dispose d'un laser pour marquer une zone de sécurité sur la route. En réalité, la dématérialisation est sans limite et ici apporte un vrai plus en termes d'information et de sécurité. Sur ce nouvel exemple, on voit une autre application qui finalement est un système de réalité augmentée qui aide le joueur de billard à définir la bonne trajectoire de sa boule. La solution dématérialisée ouvre vraiment la porte de la réalité augmentée, et c'est aussi sans limite, vous pouvez bien l'imaginer. Voyons maintenant le principe de vibration. La question à se poser est la suivante, que se passe-t-il si l'objet rentre en vibration ? Les sous-principes suggérés sont les suivants, faire osciller ou vibrer une partie du produit, si l'oscillation existe déjà, eh bien chercher à augmenter la fréquence, et puis vous pouvez aussi remplacer des vibrations mécaniques par des vibrations piézoélectriques ou des ultrasons. Alors là, on voit une illustration avec une découpeuse qui exploite parfaitement ce principe de vibration. Pour découper du bois, du plastique, on peut imaginer découper pas mal de choses. Et en plus, ça a le gros avantage d'être moins dangereux. Alors vous voyez ici sur cette photo, il y a un smartphone qui est équipé d'un petit vibreur pour avertir un appel sans faire de bruit, qui est finalement fait par un petit axe et un petit balourd qui tourne à une vitesse élevée et qui génère finalement cette vibration. Et là, enfin, vous voyez un exemple avec un nettoyeur par ultrasons qui permet de nettoyer des pièces rapidement et sans solvant. Vous voyez qu'avec les vibrations, on peut faire pas mal de choses. Voyons maintenant un nouveau principe qui est l'action périodique. La question à se poser est la suivante. Que se passe-t-il si vous mettez en place des actions périodiques? Alors, il existe là aussi plusieurs sous-principes. Le fait de remplacer une action continue par une action périodique ou par une impulsion. Si l'action est déjà périodique, eh bien cherchez à modifier sa fréquence ou sa période. Et enfin, utilisez des pauses entre les actions pour réaliser une autre action. Vous voyez, c'est tout simplement le cas des feux tricolores qui agissent de manière périodique pour gérer la circulation. On peut aussi prendre l'exemple de ce magazine, vous voyez, Science et Vie, qui modifie sa fréquence de diffusion en éditant régulièrement des numéros hors série. Et enfin, l'essuie-glace qui illustre parfaitement ce principe, car il propose finalement des actions périodiques qui en plus peuvent être ajustées en fonction du besoin. Découvrons ensemble maintenant le 20e principe qui concerne la continuité. La question à se poser est la suivante. Que se passe-t-il si vous optez pour une action continue? Les sous-principes sont de chercher à travailler en continu, de privilégier les actions où toutes les parties de l'objet travaillent en permanence et à plein régime, ou alors chercher à éliminer les temps morts, les marches à vide si vous voulez, ou les actions intermittentes. Par exemple, sur cette machine, vous voyez une boucle de réserve au niveau de la toile qui est en sortie de dévidoir et qui permet de compenser des différences de vitesse, des différentes opérations, vous voyez, qui suivent comme ça le déroulement de la toile. Donc ça permet finalement d'absorber ces écarts de vitesse et de maintenir une action continue. Vous voyez sur cette photo un système de ramassage de pommes qui travaille en continu, vous voyez qu'un système de rouleau est muni de pics. Eh bien voilà, le système donc travaille en continu jusqu'à remplir finalement l'intégralité des deux seaux. Et enfin un autre exemple qui cette fois-ci concerne un service, ce sont tout simplement les stations-service qui distribuent du carburant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment grâce à des systèmes d'automates qui rendent autonomes les stations-service. Voyons maintenant le principe de vitesse élevée. La question à se poser est la suivante. Qu'arrive-t-il à votre produit à grande vitesse? Le sous-principe proposé est de chercher à conduire le procédé ou certaines de ses étapes, celles néfastes, dangereuses ou hasardeuses, et bien de chercher à les réaliser à grande vitesse. Par exemple, la turbine dentaire tourne à 350 000 tours minute pour réduire le temps d'exécution ainsi que le risque de dérapage. Vous voyez ici, le paiement sans carte accélère le passage en caisse sans être obligé finalement de taper son code secret. On est donc dans une démarche plus sécurisante. Vous voyez ici l'exemple du télépéage sans arrêt qui permet au véhicule de passer à 30 km/h grâce à une détection du véhicule qui est anticipée. On évite comme ça le risque de se rapprocher finalement de l'automate et de rayer sa voiture. On évite aussi le risque de bouchon puis de venir comme ça taper ou se faire percuter par une autre voiture. Donc finalement, la vitesse accélérée dans le passage du télépéage apporte un plus pour l'utilisateur. Alors voyons encore un nouveau principe qui est celui de la conversion. La question à se poser est la suivante. Est-il possible d'utiliser des facteurs nocifs pour conduire à des effets positifs? Alors vous pouvez chercher à utiliser des effets nuisibles pour obtenir une action positive, ou alors éliminer un facteur nuisible en le combinant avec d'autres effets néfastes, et enfin chercher à amplifier un effet nuisible jusqu'à ce qu'il cesse d'être néfaste finalement. C'est l'exemple du Botox qui est utilisé pour retendre la peau, qui est à la base d'une toxine pouvant créer des paralysies musculaires, et qui utilisé avec la bonne dose, au bon endroit, permet d'obtenir de bons résultats. Là, dans cet exemple, vous voyez le fait de brûler superficiellement le bois avec une torche à propane, permet de le teinter et de le protéger. Le composteur lui permet de recycler certains déchets alimentaires pour recréer du compost fertile. On est exactement donc dans l'esprit de ce principe d'innovation. Voyons maintenant le principe de rétroaction. La question à se poser est la suivante. Que se passe-t-il si vous introduisez un feedback? Vous pouvez chercher à introduire un asservissement qui va mettre en jeu une réponse ou une vérification pour améliorer un processus ou une action. Si l'asservissement est déjà en place, eh bien cherchez à le modifier au niveau de son ampleur ou de son influence. Voyez par exemple ce détecteur, eh bien capte votre présence et en retour permet aux lampes de s'allumer automatiquement. Un autre exemple que vous connaissez tous, à l'entrée des villes, voyez les panneaux qui informent en temps réel le niveau de remplissage des parkings. Eh bien, grâce à cette information, grâce à ce feedback, vous pouvez adapter votre comportement. Alors un autre exemple, ce sont les likes de Facebook qui informent du niveau de satisfaction des lecteurs et qui ont une influence considérable sur ce qu'on appelle la preuve sociale. On va parler maintenant du principe intermédiaire. La question à se poser est la suivante. Quel objet intermédiaire peut être opérationnel momentanément? Vous pouvez par exemple chercher à utiliser un objet ou un procédé intermédiaire pour transmettre l'action, ou alors combiner temporairement le produit à un objet qui devra pouvoir être enlevé facilement. Vous voyez, c'est ce côté de réversibilité. Sur cet exemple, vous voyez un système de ceinture qui est finalement un objet intermédiaire qui facilite la verticalisation du corps du patient. Ici, vous voyez un adaptateur pour outils de jardinage qui dispose d'une zone d'appui, qui est aussi un élément intermédiaire, qui a été rajouté à la pelle, et qui sert aussi de levier grâce à une articulation. Là, vous voyez un adaptateur qui se présente sous la forme d'une pince et qui se fixe sur un tube largement répandu dans les transports en commun, et bien pour pouvoir supporter votre gobelet. Et bien, toujours dans la même idée, vous voyez un autre système qui assure une liaison, cette fois-ci stable, sur l'accoudoir d'un canapé. Alors là, on voit un autre concept qui facilite la dépose du ruban adhésif en contrôlant le bon positionnement des fils, vous voyez, qui viennent se loger parfaitement sous le ruban. Donc c'est vraiment un plus indéniable pour mieux travailler, en quelque sorte. Alors sur cette photo, on voit un exemple d'un chariot qui est adapté pour recevoir la roue arrière et la béquille de la moto. Donc la mise en parking est nettement facilitée et vous voyez que l'utilisateur peut continuer finalement à diriger la moto grâce à la roue avant qui elle est restée au contact du sol. Ici on voit un autre système qui permet de déplacer facilement les cônes sur la route en toute sécurité. Encore un autre exemple d'un système astucieux de tapis qui est composé d'un film qui s'enroule sur un axe et le film, une fois placé sous le contenu du plateau, est déplaçable facilement par un enroulement, tout simplement. Alors encore un autre exemple d'un panneau magnétique qui permet le maintien des outils dans une position utile. Vous voyez, quelquefois, il est difficile d'assembler en direct deux éléments entre eux, mais en revanche, il est possible de les lier grâce à un élément intermédiaire. Alors ici, vous voyez un système qui extrait l'huile de l'eau en la déposant par adhérence au préalable sur un cylindre rotatif intermédiaire. Un autre produit très astucieux qui est un coussin qui permet de prépositionner correctement une fenêtre sans effort avant sa fixation. Il suffit juste d'appuyer sur la poire pour gonfler le coussin et donc d'ajuster avec une certaine précision le positionnement de la fenêtre et la maintenir le temps de la fixer correctement avec des vis. Alors voyons maintenant un nouveau principe qui est celui de self-service. La question à se poser est la suivante. Comment pouvez-vous rendre votre produit autonome? Les sous-principes suggérés sont les suivants. Rendre l'objet autonome en ajoutant des fonctions auxiliaires utiles ou alors utiliser des ressources gaspillées ou perdues, que ce soit en termes d'énergie ou de déchets. Vous voyez par exemple cette lampe LED se recharge à la demande grâce à une dynamo qui est actionnable par l'utilisateur. Vous voyez ici un robinet automatique qui déclenche l'arrivée d'eau par une détection infrarouge de la présence des mains. Alors vous voyez aussi dans cet exemple que l'autonomie permet aussi dans ce cas-là de mieux maîtriser la consommation et répond aussi à des contraintes d'hygiène. Et enfin, vous voyez ici un robot aspirateur qui est totalement autonome pour faire le ménage et qui revient sur sa borne d'alimentation lorsqu'il est déchargé. Le principe suivant est le principe de copie. La question à se poser est la suivante. Est-ce suffisant d'utiliser une copie de votre produit? Alors vous pouvez par exemple chercher à utiliser des copies simplifiées et bon marché plutôt qu'un objet complexe, cher et fragile, ou alors remplacer le produit ou son procédé par des copies optiques. C'est tout bêtement hein, l'exemple de l'épouvantail hein, qui peut se révéler d'ailleurs suffisant pour éloigner des oiseaux. On voit aussi sur cette photo hein, que dans certaines situations, les fleurs artificielles sont suffisantes hein, et ne demandent pas d'entretien, donc ça peut être très pratique. Et là, vous voyez une image qui provient d'une caméra thermique et qui permet d'analyser efficacement les déperditions de chaleur. Nous allons voir maintenant le principe éphémère et bon marché. La question à se poser est la suivante. Qu'est-ce qui peut être remplacé par des objets à usage unique ou des objets consommables? L'idée est de chercher à remplacer un objet cher par de nombreux objets bon marché en renonçant à certaines propriétés, comme la durée de vie par exemple. Vous voyez que si on n'y prête pas attention, eh bien ce principe tel qu'il est énoncé peut poser des questions d'un point de vue écologique. Alors voyons quelques exemples, comme le sac poubelle qui est à usage unique pour l'évacuation des ordures ménagères. Donc là, pour des raisons hygiéniques, on accepte que le produit soit jetable, consommable. Dans cet exemple concernant les mouchoirs jetables, on voit bien que le côté usage unique permet d'éviter la contamination, donc c'est plutôt utile. En revanche, sur l'exemple du rasoir jetable, qui a une durée de vie limitée, on peut se poser des questions sur la nécessité du consommable d'un point de vue écologique. Vous comprenez donc que l'application de ce principe est à manier avec une certaine éthique. Voyons maintenant le principe d'interaction non mécanique. La question à se poser est la suivante. Quel moyen sensoriel peut remplacer un moyen mécanique? Alors, il y a également d'autres sous-principes qui sont pertinents et qui évoquent d'autres pistes, notamment celle de remplacer un système mécanique par des moyens sensoriels, qu'ils soient optiques, acoustiques, qui concernent le toucher ou l'olfactif, ou alors interagir avec le produit par des champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques, et enfin de chercher à passer de champs statiques à des champs mobiles, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. C'est l'exemple du lecteur de musique MP3 qui lit directement des données inscrites dans une mémoire. Donc il n'y a plus de système mécanique pour venir lire une information sur un support. Sur cet exemple, vous voyez un système pour lever des plaques d'égout qui utilise la force magnétique pour manipuler cette masse lourde et peu préhensible, donc c'est finalement très pratique. Et là, sur cet exemple, vous voyez une raclette qui est constituée de deux parties aimantées et positionnées de part et d'autre de la vitre, donc c'est une solution qui là aussi est très pratique pour nettoyer des zones difficiles d'accès. Voyons maintenant le principe de fluide. La question à se poser est la suivante. Est-il possible de remplacer des parties solides par un fluide? Alors vous pouvez aussi chercher à remplacer des parties solides d'un objet par du gaz ou du liquide. Alors ça fait évidemment penser à tout ce qui est objet gonflable, les objets remplis d'air ou d'eau. Alors par exemple, vous voyez, ces chaussures renferment une capsule d'air dans la semelle pour amortir le poids du corps. Là, ici, on voit un coussin de voyage qui se gonfle avant d'être utilisé, se dégonfle avant d'être rangé. Vous voyez, c'est très pratique pour un gain de place. Et là, évidemment, le fameux bateau Zodiac, qui, une fois gonflé, devient tout simplement insubmersible. Et là, sur cet exemple, vous voyez un casque de trottinette qui est gonflable et qui, finalement, minimise énormément son encombrement lorsqu'il ne sert pas. Et c'est très pratique quand vous êtes obligé de l'emmener avec vous lors de tous vos déplacements. Voyons maintenant un nouveau principe qui est la membrane flexible. La question à se poser est la suivante. Comment pouvez-vous isoler ou protéger votre produit par un film? Alors deux sous-principes sont suggérés. Le premier est de remplacer les structures tridimensionnelles par des membranes souples et des films minces. Et la deuxième est d'isoler ou protéger le produit de son environnement en utilisant des membranes souples et des films minces. Alors vous voyez ici sur cet exemple un casque de vélo qui est pliable et construit en feuilles de papier recyclables. Et là sur cet exemple, vous voyez une membrane souple qui se pose sur une toiture pour assurer son étanchéité. Et enfin, un exemple que je vous ai déjà montré pour un autre principe, qui est un film de protection pour un écran de smartphone, qui finalement le protège des rayures et des impacts. Je vais vous parler maintenant du principe de porosité. La question à se poser est la suivante. Que se passe-t-il si vous utilisez des matériaux poreux? Deux principes sont suggérés, des sous-principes. Le premier est de rendre un objet poreux ou lui adjoindre des éléments poreux, que ce soit sous forme d'insert ou de revêtement, vous voyez. Et puis, si une partie du produit est déjà poreuse, eh bien, cherchez à la remplir, du moins remplir les porosités d'une substance active ou utile. Alors, on peut prendre comme exemple cette semelle de fer à repasser qui est constituée d'une multitude de trous pour laisser passer la vapeur. Donc, c'est une certaine forme de porosité. Et vous voyez ici sur cet exemple un diffuseur d'eau qui est muni d'un embout conique microporeux pour ralentir et maîtriser le débit d'arrosage. Et vous voyez sur cet exemple l'applicateur de cirage de chaussures qui est muni d'un embout éponge pour faciliter l'étalage de la cire. Donc c'est un produit qui utilise astucieusement le principe de porosité. Vous voyez ici une membrane qui est imperméable et respirante, qui est constituée de micropores stoppant l'eau mais laissant passer la vapeur d'eau pour finalement la respirabilité. Alors voici un nouveau principe qui est le changement de couleur. La question à se poser est la suivante, est-il possible de changer la couleur de votre produit ou sa transparence? Plusieurs pistes sont suggérées, comme modifier la couleur d'un objet ou de son environnement, ou alors modifier le degré de transparence du produit ou de son environnement, et enfin de chercher à utiliser des colorants additifs pour observer des objets difficiles à observer. Donc vous voyez par exemple ce système de lunettes permet de changer la couleur des branches de sa monture. Donc ça peut être utile pour coordonner la couleur de ses lunettes et son habillement du jour. Vous voyez un autre exemple qui est le concept de chaussure qui propose finalement d'acheter une semelle et plusieurs tiges de couleurs différentes. Donc là aussi, si vous voulez être en total look avec votre habillement, cette chaussure vous le permet. Sur cet exemple, vous voyez des verres photochromiques qui adaptent leur teinte en fonction de la luminosité. Donc vous voyez plusieurs bases de couleurs, marron, vert ou gris. Et puis ici, vous voyez l'exemple d'un kayak qui dispose d'une coque transparente pour observer le fond de l'eau. Ces deux derniers exemples nous montrent que jouer sur la transparence d'un matériau nous permet finalement d'agir sur l'expérience d'usage de l'utilisateur. Voyons maintenant ensemble le principe d'homogénéité. La question à se poser est la suivante, que se passe-t-il si les objets sont similaires ou les mêmes ? Deux pistes sont suggérées, tout du moins des sous-principes. Le premier est d'utiliser le même matériau pour des objets interagissant avec un objet donné. Et puis une autre piste qui est d'utiliser des matériaux ayant des propriétés similaires ou proches. Alors vous voyez, c'est le cas du diamant qui est tellement dur que sa taille est réalisée par des outils constitués eux-mêmes de diamants. Alors vous voyez ici un autre exemple qui est une bouteille de shampoing qui est constituée de savon pour finalement une solution zéro déchet. Là aussi, vous voyez une tasse qui est composée de biscuits qui habituellement accompagnent le café au moment de la dégustation. On arrive là aussi à un produit où tout est consommé. Voyons maintenant un nouveau principe qui est celui du rejet et de la régénération. La question à se poser est la suivante. Est-il possible d'éliminer ou recycler votre produit ou une partie? Deux sous-principes sont suggérés. Le premier est de chercher à éliminer les parties de l'objet qui ont fini de remplir leur fonction ou alors de les modifier directement pendant l'opération. Et puis une autre suggestion qui est inversement de chercher à régénérer ou récupérer les consommables directement pendant l'opération. Alors voici un exemple de produit recyclable qui est cette boîte à œufs qui est composée à base d'herbes et qui est donc totalement compostable. Alors vous voyez ici l'exemple des batteries qui sont rechargeables jusqu'à 1000 fois grâce à un chargeur qui est connectable à une prise de courant. Et puis évidemment un autre exemple qui est recyclable comme ces cartouches d'encre qui finalement peuvent être réutilisées plusieurs fois sous réserve d'être rechargées correctement. Voici un nouveau principe d'innovation qui concerne la valeur d'un paramètre. La question à se poser est la suivante, est-il possible de changer un ou plusieurs paramètres de votre produit? Alors vous pouvez par exemple chercher à changer de phase, c'est-à-dire passer d'une phase solide à liquide ou gazeux, changer également la concentration, la densité ou la consistance de la matière, puis vous pouvez également chercher à modifier le degré de flexibilité ou de changer la température. Vous voyez par exemple le propane est un gaz de pétrole liquéfié son état liquide facilite son transport. Voyez ici l'exemple du savon qui est présenté sous une forme liquide et qui est distribué par un système de doseur, donc c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser et en même temps plus hygiénique. Et là, vous voyez sur ce dernier exemple une solution qui permet de pulvériser un lubrifiant en microparticules. Donc là, vous voyez, hein, plus on avance dans les principes d'innovation, plus on arrive sur des principes qui sont quand même relativement pointus, comme le principe numéro 36, qui est le principe de phase de transition. La question à se poser est la suivante: comment utiliser les transitions de phase? Vous pouvez par exemple chercher à utiliser les phénomènes liés au changement de phase, le changement de volume, la création ou la perte de chaleur. Vous voyez par exemple ce pack qui est doté d'un gel, eh bien il durcit au congélateur et conserve le froid durablement lorsqu'il est placé sur une entorse, donc c'est très pratique. Alors dans cet exemple de gel antiseptique, eh bien finalement il s'évapore lorsqu'on se frotte les mains, donc là aussi c'est aussi très pratique pour l'usage. Et puis enfin, voici un produit qui utilise ce principe de changement de phase, qui est le frigidaire. Eh bien, il est basé sur l'évaporation d'un gaz qui est ensuite compressé pour être à nouveau liquéfié. Voyons ensemble maintenant le principe de dilatation. La question à poser est la suivante: quelle partie spécifique voulez-vous essayer de dilater? Alors, vous pouvez par exemple chercher à utiliser la dilatation ou la contraction thermique des matériaux. Et si la dilatation thermique, eh bien, est déjà effective, vous pouvez chercher à utiliser plusieurs matériaux aux coefficients de dilatation thermique différents. Alors on peut prendre comme exemple la dilatation du mercure ou de l'alcool qui permet d'indiquer la température mesurée sur un support gradué. On peut aussi prendre l'exemple du thermostat Bilam qui est constitué de deux matériaux avec des coefficients de dilatation différents, créant ainsi une courbure de la lame en fonction de la température. Et puis sur le même fonctionnement, la vanne thermostatique qui intègre une sonde thermosensible et qui régule le débit de l'eau en fonction de la température ambiante qui est désirée. Voici maintenant le principe numéro 38 qui concerne les oxydants puissants. La question à se poser est la suivante: que se passe-t-il si vous ajoutez un activateur? Alors il existe plusieurs sous-principes qui sont suggérés, comme celui de chercher à remplacer l'air par de l'air enrichi en oxygène ou par de l'oxygène pur, ou alors chercher à exposer l'air ou l'oxygène à des radiations ionisantes, et enfin remplacer l'oxygène ionisé par de l'ozone. Donc vous voyez, là aussi c'est quand même assez pointu, hein. Mais finalement il y a des produits qui utilisent ce principe et qui sont assez courants, comme par exemple les bouteilles de plongée, qui peuvent contenir du nitrox. C'est un gaz enrichi en oxygène de 40 à 100% au lieu des 21% habituels. Là, vous voyez sur cet exemple un casque de coiffure qui permet de générer une vapeur très riche en oxygène et qui laisse les cheveux plus souples et plus brillants. Pour illustrer ce principe, on peut prendre également l'exemple des pastilles activateurs de blanc qui libèrent de l'oxygène actif pour détacher, purifier et blanchir le linge. Alors voyons maintenant ensemble l'avant-dernier principe qui est celui qui concerne les éléments inertes. La question à se poser est la suivante: que se passe-t-il si vous ajoutez une partie neutre? Vous pouvez par exemple chercher à remplacer l'environnement normal par un environnement inerte et chercher à réaliser le processus sous vide, ou alors ajouter des éléments neutres ou des additifs inertes. Vous voyez, c'est le cas par exemple du conditionnement sous atmosphère modifiée et inerte qui permet de réduire l'altération des aliments. On peut prendre l'exemple également de l'extincteur qui génère de la mousse qui empêche l'air d'alimenter le feu et prévient des risques de réinflammation. Et puis un objet que l'on connaît tous qui est l'ampoule à incandescence qui est remplie d'un gaz noble qui est l'argon ou le krypton et qui permet finalement de protéger, d'améliorer les performances du filament en tungstène. On arrive maintenant au dernier principe qui concerne les composites. La question à se poser est la suivante: pouvez-vous faire quelque chose de nouveau en combinant des matériaux? Alors l'idée est de chercher à remplacer les matériaux homogènes par des matériaux composites. Vous voyez par exemple ce cadre de vélo est composé de fibres en carbone, et bien ça lui confère légèreté, robustesse et confort. Alors par exemple sur cet avion qui est le fleuron de la technologie européenne, eh bien, il est constitué de 53% de matériaux composites, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un avion. Et puis enfin, on peut prendre l'exemple du béton armé qui est composé d'une armature en acier améliorant considérablement sa résistance. Donc voilà, on vient de finir l'énoncé des 40 principes d'innovation et j'imagine que vous vous êtes rendu compte qu'ils proposent une grande variété de solutions. Après ceci dit, les principes ne se valent pas tous. Certains sont très génériques et peuvent être utilisés dans de nombreux cas, c'est le cas notamment des premiers principes que nous avons vus ensemble. En revanche, d'autres sont plus spécifiques et peuvent apporter des solutions dans des contextes plus particuliers. En tout cas, prendre conscience du potentiel créatif de ces principes vous sera d'une grande aide pour créer des produits innovants et astucieux. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de mettre tout ça en pratique. Pour ça, je vous invite à réfléchir maintenant à un produit qui n'a pas évolué depuis un certain temps et que vous avez envie de dépoussiérer. Voici la démarche que je vous propose de suivre. Premièrement, formulez la phrase d'un principe. Ensuite, imaginez mentalement la transposition au produit que vous venez de choisir. Puis, notez l'idée de la solution imaginée et vous pouvez en faire un croquis. Et enfin, reformulez la phrase pour produire de nouvelles idées. Et puis, vous continuez comme ça, ainsi de suite, à dérouler les principes les uns après les autres pour constituer une liste de solutions qui vous permettront d'innover sur le produit que vous aurez choisi. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous souhaite un bon exercice et à bientôt dans la prochaine vidéo.